Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Comme tous les jours, je ne suis pas seule dans ce studio, je suis en sécurité aux côtés du docteur d'Europe 1, Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, au programme aujourd'hui, on va parler de sommeil et de toutes ces bizarreries, enfin ces bizarreries qui sont malgré tout des troubles du sommeil avec un impact parfois important sur la qualité de vie et la santé des personnes concernées. On va parler somnambulisme notamment, somniloquie aussi et même de narcolepsie, quand l'envie de dormir est irrépressible à n'importe quel moment de la journée. C'est une vraie pathologie qui peut même toucher les enfants, vous verrez. Alors pour nous éclairer sur tous ces troubles du sommeil parfois étonnants, nous recevrons le docteur Michel Lecendreux. Il est pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique de pathologie du sommeil à l'hôpital Robert Debré à Paris. Ensuite, dans notre séquence Les mots du quotidien, Jimmy a décidé de revenir sur ce qu'il s'est passé lors du match de l'Euro samedi. Le joueur danois Eriksen s'est écroulé sur le terrain, victime d'un malaise cardiaque. Il a été sauvé grâce aux gestes de premier secours. Jimmy nous détaillera tout ça. Et enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de rapports sexuels et d'ennui. Et oui, parfois, la lassitude s'installe malgré l'amour.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour débuter ce magazine santé, c'est le vrai faux. Vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui avec la question de Pauline. On l'écoute.
Bonjour Jimmy et Mélanie. Alors voilà, j'aimerais changer de protection hygiénique et j'ai entendu parler des culottes de règles qu'on voit un peu partout sur les réseaux. Et je me demandais si c'était vraiment mieux que les serviettes ou les tampons au niveau de la santé. Est-ce que les culottes menstruelles peuvent contenir aussi des produits chimiques? Et du coup aussi, comment bien les choisir? Voilà, merci.
Alors Jimmy, une réponse sur les culottes de règles? Non, je plaisante, c'est évidemment pas vous qu'on a interviewé.
J'ai eu un moment d'angoisse. Franchement, je dis oulala.
C'est une petite blague de fin de saison. Non, pour répondre à Pauline sur cette tendance effectivement des culottes menstruelles, nous avons interrogé pour vous Juju la Gigi, c'est un pseudo bien sûr, elle est gynécologue obstétricienne.
Les culottes menstruelles, elles ont plusieurs avantages. Vu qu'elles sont réutilisables, leur impact en termes de pollution, il est a priori meilleur que les protections jetables, que ce soit les serviettes ou les tampons. Elles sont aussi meilleures pour la santé pour deux raisons. La première raison, c'est que comme elles ne contiennent pas de plastique, elles ne contiennent pas non plus ces fameux perturbateurs endocriniens qui peuvent être dangereux pour la santé. La seconde raison, c'est qu'en tant que protection menstruelle extérieure au corps, on ne peut pas développer cette pathologie qui est particulièrement grave, qui est le choc toxique lié aux règles. On peut développer un choc toxique avec des tampons ou avec une cup qui sont à l'intérieur du corps, mais avec une serviette hygiénique jetable ou avec une culotte menstruelle, c'est impossible. Elles ont quand même l'inconvénient, les culottes menstruelles, c'est qu'elles nécessitent de l'entretien. Il faut les faire dégorger avant de les laver. Je ne conseillerais pas une marque plutôt qu'une autre. Par contre, celles qui sont très transparentes sur leur mode de fabrication, les tissus et matières qu'elles utilisent sont, à mon sens, à privilégier. L'engouement qu'il y a autour des culottes menstruelles, c'est le signe que les femmes, elles veulent être actrices de leur santé tout en respectant l'environnement. Et ça, vraiment, je trouve ça super.
C'était Juju la Gigi au micro de Barbara Silvera Sonigo. Alors Jimmy, c'est à vous. On va prendre une seconde question, celle de Rachel.
Bonjour Jimmy, bonjour Mélanie. Je me demandais s'il y avait un risque avec les ondes de notre téléphone quand on le met dans la poche au niveau de la fécondité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Merci de votre réponse.
Jimmy, alors pour commencer, que peut-on dire de l'impact éventuel? On va séparer un petit peu les choses, on va faire d'une part les garçons et d'une autre part les filles. Sur la fécondité masculine, effectivement, téléphone portable dans la poche, les ondes qui peuvent en sortir, est-ce qu'il y a des données là-dessus?
Alors certaines études concluent que les ondes émises par le téléphone portable, mais aussi par le Wi-Fi, pourraient avoir un effet toxique sur le nombre de spermatozoïdes et leur mobilité. L'altération des spermatozoïdes dépendrait de la durée d'exposition quotidienne au téléphone. Et si on prend l'exemple des rats, 7 heures par jour d'exposition au téléphone portable entraîne une baisse du nombre de spermatozoïdes. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit?
Parce qu'on n'est pas des rats, et vous n'êtes pas des rats non
exactement,
plus.
Exactement, sauf ça. Non, effectivement, on n'est pas des rats. Mais c'est que c'est pas parce que vous avez un peu moins de spermatozoïdes que ça va avoir un impact sur votre fertilité. Et peut-être qu'on en fait un peu trop sur ces épiphénomènes en oubliant des choses pratiques du quotidien. Il y a quelque chose qui est très toxique pour les spermatozoïdes, c'est le cannabis. Vous avez des récepteurs dans le testicule au cannabis, et si on prend les personnes qui consultent les hommes pour infertilité, eh bien vous en avez 10% d'entre eux qui sont fumeurs de cannabis. Donc le cannabis altère la fertilité puisqu'il va abîmer les spermatozoïdes et détruire l'espèce de moteur qu'on appelle les mitochondries des cellules. Et donc le tabac et le cannabis sont deux facteurs qui vont altérer la fertilité bien loin devant ces fameuses ondes. Donc je pense qu'on peut considérer que c'est probablement un épiphénomène.
Sur les femmes, éventuellement, pour avoir son téléphone dans la poche. Moi, je sais pas, je préfère le mettre dans le sac, dans la poche. J'ai toujours quand même une petite
crainte.
Pourquoi
pas ? Il n'y a pas, de données très franches.
Sujet, vraiment, ouais.
Et on peut dire aussi que chez la femme, celles qui fument vont mettre plus de temps à avoir des enfants que
celles
qui ne fument pas.
Mais c'est pas nocif le tabac que pendant la grossesse.
Exactement.
Avant aussi, c'est embêtant.
Et puis même un peu après, on s'est rendu compte que les femmes qui fument ont une ménopause 2 ans en moyenne avant celles qui ne fument pas. Et puis mine de rien, le tabac va abîmer le microbiote vaginal par une baisse de la quantité d'œstrogène dans le sang. Et puis on va même retrouver de la nicotine dans le vagin des fumeuses.
Bon, c'est une bonne chose qu'on arrête là.
Exactement.
On a compris
que
fumer, c'est bon pour rien.
Ok les ondes, mais faisons attention à des choses du quotidien.
Très bien. Alors ce qui est particulièrement à risque, c'est tout ce qui sera en fait chaud près des testicules. Je reviens sur ce sujet au niveau des testicules, notamment l'ordinateur portable. Je crois qu'un spécialiste nous en avait parlé. Quand il chauffe trop, l'avoir sur les cuisses, c'est pas une bonne idée.
Parce que
c'est pas pour rien que les testicules elles sont à l'extérieur.
Oui, outre leur fonction esthétique, les bourses servent surtout à maintenir les testicules 2 degrés en dessous de la température corporelle habituelle. En étant un peu plus frais, ils vont conserver leur durée de vie. Et à l'inverse, on sait que la chaleur va augmenter le stress oxydatif des spermatozoïdes et une variation de simplement 1 degré entre votre température corporelle et la température des testicules va entraîner une baisse de 14% des spermatozoïdes. Raison pour laquelle on a certains métiers qui sont plus à risque de stérilité, d'infertilité, comme les boulangers, les cuisiniers,
les pizzaiolos,
exactement. Donc un conseil du quotidien, évitez d'avoir votre téléphone dans votre poche s'il chauffe et puis votre ordinateur portable sur les cuisses.
Et petit mot pour terminer sur le téléphone portable, on est d'accord, on ne le met pas non plus sur la table de chevet à côté de la tête. Je crois qu'en tout cas, c'est connu que ça perturbe le sommeil. Et pas forcément à cause des ondes d'ailleurs.
On parlera du sommeil plus longuement avec le Cristiano Ronaldo.
On fait la petite transition là.
Exactement, mais mine de rien, le simple fait d'avoir votre téléphone portable dans la chambre sans l'utiliser, c'est-à-dire vous promettez de ne pas vous réveiller, eh bien ça altère la qualité de votre sommeil. Donc les adolescents
devraient
tous...
Il peut y avoir des notifications.
Exactement,
des choses,
ça vibre, ça fait de la lumière, on est tenté de regarder. Donc le téléphone, c'est en dehors du lit évidemment, et puis si possible en dehors de la chambre.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout aucune hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Michel Lecendreux, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous
bonjour Jimmy, bonjour à tous.
Pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique de pathologie du sommeil à l'hôpital Robert Debré à Paris. Avec vous aujourd'hui, on va s'intéresser à notre sommeil et à ses troubles. Alors, qui peuvent paraître bizarres, étonnants, mais qui peuvent nuire aussi à la bonne qualité du sommeil. Vous êtes un spécialiste du sommeil de l'enfant, mais on parlera quand même aussi des adultes aujourd'hui. D'ailleurs, d'un point de vue général, les troubles du sommeil, ce que vous appelez les parasomnies dans le jargon, c'est plus fréquent chez les grands ou chez les petits. On dit dormir comme un bébé, est-ce que c'est vrai d'ailleurs?
Oui, dormir comme un bébé. Mais chez le bébé, il peut y avoir ce qu'on appelle les cauchemars, déjà très tôt dans la vie, à partir des premières semaines de vie. Les cauchemars sont déjà des parasomnies. Puis après, il y en a d'autres, les terreurs nocturnes, le somnambulisme, etc. Mais effectivement, ce sont des troubles qu'on retrouve beaucoup dans l'enfance, mais qui peuvent persister à l'âge adulte. Et là, ils deviennent très gênants.
Et justement, on va commencer par une parasomnie qui fascine beaucoup de monde, il faut être honnête, c'est le somnambulisme. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est somnambule? On dort ou est-ce qu'on est réveillé? Est-ce qu'on est entre les deux?
C'est vrai que c'est fascinant, parce que les patients, ils se lèvent de leur lit, ils vont déambuler. Généralement, c'est calme, alors on essaye de pas trop les réveiller. Mais s'ils sont agités, alors là, ils peuvent avoir des conduites très dangereuses pour eux-mêmes, voire même pour l'entourage.
Vous avez eu des cas, je ne sais pas, de gens qui faisaient des choses très très bizarres.
Il y a eu des cas de gens qui voulaient se défenestrer parce qu'ils ont envie de fuir un danger immédiat.
Là, ça devient très dangereux.
Ça devient très dangereux. Ouais. Donc, ouvrir la fenêtre, etc. Donc, il faut vraiment, vraiment... Et aussi des patients qui font des actes très complexes, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure.
Est-ce que c'est très fréquent dans la population, le somnambulisme?
Oui, c'est très fréquent chez l'enfant.
Ouais.
Pratiquement 15% des enfants ont eu au moins un accès de somnambulisme. Et puis, chez les adultes, ça peut persister à 1-2%. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'arrête comme ça tout le temps, du jour au lendemain.
Et est-ce qu'on sait pourquoi les gens sont somnambules? Est-ce qu'on a trouvé une explication particulière? D'ailleurs, est-ce que c'est considéré comme une maladie ou est-ce que c'est un trouble quelconque qui...
Bon, on parle plutôt d'un trouble. Je parle devant Jimmy, qui est très spécialisé sommeil maintenant.
Grâce à vous.
Mais plutôt un trouble, parce que c'est quelque chose qui ne va pas altérer la condition de vie réellement. Il n'y a pas d'évolution péjorative. Mais quand même, il faut se méfier de ces comportements à risque.
Vous disiez que c'était encore plus fréquent chez les enfants, donc en population pédiatrique. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge en particulier? Il y a rarement un bébé d'un an qui sait à peine marcher, qui va faire une crise de somnambulisme.
Il faut
c'est
déjà
quoi la tranche d'âge? Ouais, qui sache marcher.
Ça,
c'est le minimum.
Mais avant ça, il peut y avoir des terreurs nocturnes ou des éveils confusionnels. C'est très proche comme mécanisme.
Il se passe quoi? Mais alors, Jimmy demandait, ils dorment, ils ne dorment pas? Ça va dans une phase en particulier?
Exactement.
Du sommeil?
Ils sont dans un sommeil qu'on dit intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils vont sortir du sommeil profond, un sommeil très profond, et puis avoir un éveil qui est incomplet. Donc ça donne un tableau très confus. avec quand même une conscience qui est un petit peu présente, mais pas la conscience habituelle, c'est ce qui inquiète les parents. Ils ne reconnaissent pas, ils n'ont pas le contact avec l'enfant qu'ils ont habituellement.
D'où l'effet visuel en mode zombie un petit peu,
un
quand
peu
même,
zombie,
quand on les
oui.
voit. Ouais.
Un peu zombie.
Alors, on va tordre le cou peut-être à une idée reçue ou pas. Est-ce qu'il faut réveiller à somnambule? Est-ce qu'on risque quelque chose si on décide de le stimuler? Parce que les parents peuvent être un peu effrayés. Est-ce qu'on risque de créer quelque chose de
particulier? Tordons le cou à cette idée. Non, il ne faut pas le réveiller. Il faut essayer de ne pas le réveiller brutalement parce qu'on risque d'avoir une réaction d'angoisse, comme on a dit tout à l'heure, avec un patient qui va avoir un comportement inadapté. Donc on va le raccompagner dans son lit et puis attendre qu'il réenclenche son cycle de sommeil. Généralement, tout va bien se passer.
La crise de somnambulisme, donc quand il y a la déambulation que vous avez décrite, alors qu'on a envie d'ouvrir la fenêtre ou pas, mais ça peut durer combien de temps, une crise de somnambulisme? C'est très long, c'est court.
Je me souviens d'un patient adulte qui est sorti de chez lui, qui a ouvert la porte avec ses clés, qui est ressorti, qui est allé au distributeur, tirer de l'argent
mais
avec
non.
sa carte bleue.
C'est pas vrai.
J'ai pensé, d'ailleurs, j'ai perdu la mienne.
J'étais pas ça avec la carte bleue de mon mari, moi.
J'ai été ouvrir la faillite, alors... je sais pas ce qui s'est passé.
Les galeries étaient fermées. Mais enfin, bon, il n'y avait pas le couvre-feu. Il est rentré et puis il a refermé. Et le lendemain, il ne se souvenait plus de rien.
Ah ouais, c'est
il
incroyable.
L'a su parce qu'il a vu un débit sur sa carte.
C'est incroyable.
Parce que justement, une des caractéristiques, c'est qu'on ne se souvient pas de l'épisode. Ça veut dire qu'est-ce que, en tant que parent, on doit raconter ce qui s'est passé à des enfants ou on fait comme si de rien n'était?
Ah, il vaut mieux éviter de raconter comme quelque chose de traumatisant parce que l'enfant, à ce moment-là, il se rend compte qu'il n'est plus dans la gestion de son comportement. Je me souviens d'un enfant qui était allé manger à la cuisine. Parce que ça, c'est les troubles du comportement alimentaire avec somnambulisme. Donc, on retrouvait le matin des miettes sur la table.
Mmh. Moi, je retrouve des papiers dans mon lit, je connais très bien. Des papiers de gâteau que j'aime pas dans la journée, mais la nuit, apparemment,
la
je les aime
disait,
beaucoup.
Mais non, t'as pas mangé. Et lui, il disait, mais non, je me suis pas levé. Donc, il se souvenait absolument pas y être allé.
Ouais. Moi, j'ai parfois quelques souvenirs quand même. Comment on gère avec un enfant somnambule, justement? Vous dites, donc, on leur en parle pas forcément, ça peut être angoissant, mais pour éviter les crises de somnambulisme, est-ce que dans la journée, il y a des choses à faire? Est-ce qu'on peut limiter les crises comme ça ou pas?
Déjà, il vaut mieux pas dire crise, mais épisode.
D'accord, vous faites pas comme moi, vous dites épisode, pas crise. Okay.
Parce que la crise, c'est très épileptique.
Ouais, c'est vrai.
Et dans le somnambulisme, il n'y a pas d'épilepsie, ça, faut rassurer les gens. C'est pas du tout de l'épilepsie. En tout cas, on peut l'éliminer. Mais donc,
une petite sieste dans la journée, ça peut aider.
Petite sieste dans la journée. Si vraiment les épisodes sont fréquents, il faut consulter, voir quelqu'un, enregistrer l'enfant. Et puis, on peut faire des éveils programmés. C'est-à-dire, si on sait que l'épisode, il est à telle heure, on réveille l'enfant 5 à 10 minutes avant. Et comme ça, on l'évite assez bien.
Et puis après, il se rendort et on évite pas la crise, on évite l'épisode, j'ai bien compris. Merci beaucoup, docteur Le Sandreux. Quelques minutes, on reste encore ensemble, vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour dans ce rendez-vous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre invité est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Michel Le Sandreux. Vous êtes pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique de pathologie du sommeil à l'hôpital Robert Debré à Paris. Alors on s'intéresse avec vous à certains troubles du sommeil qui peuvent nous paraître à nous des bizarreries. On va passer à la somniloquie, qui peut être associée au somnambulisme dont on vient de parler. La somniloquie, expliquez-nous ce que c'est.
Ah oui, alors la somniloquie, c'est très simple, c'est le fait de parler en dormant. Alors on peut raconter plein de choses. Mais quelquefois, c'est incompréhensible et d'autres fois, c'est compréhensible. Donc attention à ceux qui nous écoutent pendant qu'on somniloque. Après, ce n'est pas un trouble très grave. C'est même très, très fréquent.
C'est-à-dire qu'on a tous parlé au moins une fois dans sa vie, dans la nuit.
Ouais. Mais parfois, on parle dans une autre langue. Par exemple, si vous arrivez aux États-Unis, vous êtes là quelques temps, vous pouvez parler anglais de temps en temps.
Ah, j'adorerais, c'est génial. Mais non, quand on ne parle pas bien anglais, on ne parle pas bien en dormant non plus, j'imagine.
Non, non plus,
c'est
non.
Ça. Et donc, c'est un trouble qui est fréquent. Est-ce que ça peut révéler une autre pathologie, de l'anxiété dans la journée? Est-ce que c'est des gens qui vont moins bien psychologiquement? Ou au contraire, c'est quelque chose de banal et pour lequel il ne faut pas trop s'inquiéter?
C'est assez banal, il ne faut pas trop s'inquiéter. Les parasomnies, c'est très fortement familial. Si vous avez un somnambule dans votre famille ou un somniloque, vous avez beaucoup plus de risques ou de chances ou de malchances de l'être aussi.
Et alors, ces parleurs nocturnes, ces bavardeurs nocturnes, enfants ou adultes, est-ce qu'ils se mettent là aussi en action, je dirais, à un moment particulier de la nuit, à un moment particulier du sommeil ou pas? Est-ce que c'est en sommeil profond, en sommeil non plus léger, j'imagine forcément, mais...
En action, c'est-à-dire qu'ils sont capables de parler, d'avoir des mouvements. On sait que dans le sommeil paradoxal, on ne peut plus rien faire, on est en atonie, donc normalement on ne doit pas parler, on ne doit pas avoir de rapport sexuel, on n'a rien à voir. On sait qu'il y a des patients qui sont, par exemple, sexomniaques.
Ah oui.
Oui, Mélanie, vous demandez justement un avis médical tout à l'heure.
Oui, parce que justement...
Je voulais faire discret, mais bon...
discussion.
Il se passe quoi dans la sexomnie? Comment vous avez dit?
La sexomnie, c'est un patient qui, dans son somnambulisme, va avoir... soit de l'auto-érotisme, soit même des rapports sexuels avec son conjoint.
Et il ne se rappelle de rien le lendemain.
Rien du tout.
C'est incroyable.
Et c'est différent d'un rêve érotique.
Le partenaire non plus d'ailleurs.
C'est différent d'un rêve érotique. En fait, c'est un autre mécanisme. On ne rêve pas, on est vraiment en action. Et...
On est vraiment en action. On est comme dans un somnambulisme, c'est-à-dire que le cerveau est à moitié éveillé, à moitié endormi. Donc ça peut donner des... Et je vous d'accord, parce que là on rit un petit peu, mais le somnambulisme peut être très sérieux, ouais. Très grave.
Un enfant qui se met en danger, par exemple.
On a des patients qui se sont défenestrés. Ouais. Et donc il y a vraiment des conduites à tenir pour les protéger.
Les sécuriser, fermer une porte, éventuellement à clé si besoin.
Les fenêtres, les escaliers, tout ce qu'on peut.
Quand on est somniloque, qu'est-ce qu'on dit en général? Moi j'en ai un dans mon lit et souvent c'est des cris, des pleurs, des rires. J'ai l'impression que c'est toujours, quand il y a des mots, même si je ne les comprends pas, c'est des choses intenses en tout cas, j'ai l'impression.
C'est intense, ça accompagne rarement un rêve, parce que dans le rêve, normalement, on ne peut pas somniloquer. Donc c'est du sommeil plus léger, mais ça peut être en rapport avec des stimuli qu'il entend dans la pièce ou des stimulations. Voilà, c'est quand même difficile de déchiffrer un somniloque.
Il semblerait que les ronfleurs, ou en tout cas ceux qui souffrent d'apnée du sommeil, feraient plus de somniloquie, peut-être un peu plus de parasomnie. Comment ça se fait?
Oui, ça c'est vrai aussi. Parce que tout ce qui va fragmenter le sommeil, comme les apnées, les mouvements périodiques des jambes, ce qui va être le but d'enregistrer ces patients pour savoir ce qu'ils ont, fragmentation du sommeil veut dire plus de risques de parasomnie.
Alors on va faire un petit focus à présent sur les terreurs nocturnes. Vous avez un petit peu amorcé ça tout à l'heure, qui touchent donc les enfants. De quel âge d'ailleurs, vous allez nous le dire. Et à cette occasion, c'est quoi une vraie terreur nocturne, à la différence avec les cauchemars peut-être?
Dans la terreur nocturne, il y a beaucoup de signes qu'on appelle neurovégétatifs. C'est-à-dire... le patient est en sueur, il a les yeux écarquillés, les pupilles dilatées, il a une tachycardie, il respire fort et vite, etc. Donc c'est vraiment un tableau différent du cauchemar. Et ensuite, il ne raconte pas ce qui se passe. Il est incapable de raconter parce qu'il est obnubilé. Ça ressemble beaucoup au somnambulisme, sauf que là, il n'y a pas de déambulation.
C'est les enfants de quel âge, donc, qui sont en général...
C'est entre 3 et 6 ans, parfois avant. Et ce dont il faut se méfier, c'est le somnambulisme terreur. Parce que si les deux sont associés, alors là, c'est la panique.
Votre enfant se transforme littéralement en zombie, c'est ça?
Oui, The Walking Dead.
Cherche surtout à s'enfuir.
Mais du coup, vous avez dit, il y a une différence entre les cauchemars et les terreurs nocturnes. Dans le cauchemar, on arrive à rassurer l'enfant. On fait un câlin, il se rendort. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait face à une terreur nocturne? Est-ce que ça sert à quelque chose de vouloir le réconforter, par exemple?
Alors, c'est difficile. Il faut prévenir les voisins, parce que parfois, c'est des cris stridents. Ce n'est pas comme dans un cauchemar. Oui. On a beaucoup de mal. Et parfois, il faut descendre 3 étages. Moi, je me souviens avoir fait ça pour amener l'enfant à l'extérieur, attendre qu'il se calme un petit peu et revenir et le remettre dans son lit. Un peu comme dans un somnambulisme, on attend le cycle de sommeil suivant.
Ouais.
Bon, faut pas forcer l'éveil.
Je sais que c'est très mal et que vous allez me taper dessus, mais moi, je la prenais dans mon lit pour les calmer. C'est pas une bonne idée, non, ça? Même si on veut vraiment les rassurer.
C'est la seule dérogation qu'on peut prendre l'enfant dans son lit, c'est la terreur nocturne.
Ah, quand même, donc je faisais pas si mal. J'avais
pas
le droit.
Si mal,
c'est
pas
ça.
Si mal.
Ça l'a calmé au bout d'un moment.
Pour une fois, Mélanie, bravo.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui vont favoriser les terreurs nocturnes? Est-ce que du côté de l'hygiène de sommeil, on peut essayer d'améliorer certaines choses?
Bien sûr, on peut essayer de proposer des siestes, par exemple, si l'enfant a encore l'âge de faire la sieste. Si on diminue la quantité de sommeil profond, on va diminuer la probabilité d'avoir des terreurs nocturnes. Il ne faut pas que l'enfant soit privé de sommeil.
Jusqu'à quel âge on peut faire les enfants doivent faire la sieste, d'ailleurs?
Jusqu'à 3 ans, parfois un petit peu après. Après, si on voit que l'enfant ne peut plus faire la sieste, il ne faut pas le forcer non plus.
D'accord. Docteur Lecendre, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans ce rendez-vous et nous accompagne toujours cet après-midi en studio avec nous. C'est vous, docteur Michel Lecendreux. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et coordonnateur du Centre pédiatrique de pathologie du sommeil à l'hôpital Robert Debré à Paris. Alors on va s'attaquer à présent à un trouble, une maladie qui peut être très impressionnante, la narcolepsie. Expliquez-nous ce que c'est, quels sont les symptômes?
La narcolepsie, c'est l'incapacité à maintenir de l'éveil. Même dans des situations où on doit être un petit peu réactif, comme ici par exemple. Bien là, si j'étais narcoleptique, peut-être que je me serais endormi là, pendant la très belle chanson.
Alors que vous êtes en train de nous parler, quoi, c'est ça?
Oui,
en parlant aussi, c'est possible.
On peut en marchant, en parlant. C'est plutôt quand on est peu stimulé. Voilà. Donc, c'est bien souvent des enfants, aussi des adultes. C'est à peu près un cas pour 20 000. Ça fait partie des maladies rares, mais pas si rares que ça. Donc, savoir la repérer, c'est très important.
Et puis, les narcoleptiques vont parfois avoir ce qu'on appelle des cataplexies. C'est quelque chose qui... À mon avis, dans la population générale, est assez caricatural. On pense que les gens perdent connaissance. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond justement une cataplexie?
Alors la cataplexie, c'est pas le fait de s'endormir, c'est le fait de perdre son tonus. Alors on va s'affaisser, s'effondrer, généralement, quand il y a une émotion positive, par exemple un fou rire, on rit très fort et hop, on perd. Alors on dit s'écrouler de rire, oui.
Ah oui.
Et là, le cataplectique, lui, il ne peut pas faire autrement que de s'écrouler.
Il s'écroule et il s'endort au final.
Il ne s'endort pas, il est dans un état de maintien de la conscience, mais il n'a plus de tenue. Il est une poupée de chiffon. Donc on va attendre qu'il revienne dans un état normal, généralement quand il a fini de rire.
Et c'est le tonus musculaire de tout le corps. C'est pour ça que vous dites que certains peuvent s'écrouler ou parfois c'est que le visage.
Enfin, ça peut être que le visage, ouais. Ça peut donner une bouche ouverte, la langue qui est pas bien maintenue dans la bouche, les épaules qui s'affaissent. Ça, c'est des cataplexies qu'on appelle partielles. Ouais. Et quand ces symptômes-là sont associés à de la somnolence, c'est-à-dire un enfant qui dort beaucoup, qui a pris du poids et qui a ces phénomènes, il faut vraiment penser à la narcolepsie.
Et d'ailleurs, ces patients, comment est-ce qu'ils dorment la nuit? Est-ce que du coup, ils sont en pleine forme?
Et oui, parce que ce n'est pas une maladie du sommeil, c'est une maladie de l'éveil. Alors, c'est
exactement,
ça
c'est une maladie de l'éveil, mais qui peut aussi se répercuter sur le sommeil, parce qu'ils finissent par dormir pas très bien, avoir ce qu'on disait tout à l'heure, éventuellement du somnambulisme, des parasomnies. Et puis surtout, ils s'endorment en classe, ils s'endorment au cinéma, ils s'endorment en voiture, ils s'endorment partout. Donc, c'est très inquiétant pour l'entourage.
C'est plus fréquent chez les enfants ou chez les adultes, cette maladie? Et chez les enfants, c'est à quel âge, en général, que ça survient?
Ça commence à partir de 4 ans, mais souvent, c'est entre 8 et 15 ans. Alors, on dit qu'ils sont feignants, qu'ils n'arrivent pas, ils ne veulent plus travailler, etc. Qu'ils ne dorment pas la nuit, qu'ils fument du cannabis. Ça peut arriver, mais généralement, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont une vraie maladie neurologique, parce qu'il y a un déficit dans le cerveau.
Et du coup, est-ce que le diagnostic est fait assez facilement? Une fois qu'on a un enfant narcoleptique, est-ce que les patients viennent vite en consultation? Est-ce qu'on a rapidement un diagnostic ou est-ce qu'il y a une errance de quelques mois ou peut-être quelques années?
Alors nous, on est un centre expert à Robert Debré à Paris. On voit les enfants arriver quelquefois très tôt, au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Quelquefois, il faut beaucoup plus de temps, presque 10-15 ans. Et là, si le patient n'a pas été diagnostiqué pendant toutes ces années, c'est vraiment une perte de chance considérable pour lui.
C'est quoi la cause? Pourquoi on devient narcoleptique du jour au lendemain? D'ailleurs, est-ce que c'est du jour au lendemain ou c'est quelque chose qui s'installe, progressivement?
C'est pratiquement du jour au lendemain, ouais. Mélanie, pratiquement du jour au lendemain. On sait maintenant qu'il y a une agression de certaines cellules qui sont dans l'hypothalamus, qui produisent ce qu'on appelle l'orexine, qui est un éveillant très fort. Et si on n'a plus cet éveillant très fort, si ces neurones arrêtent de le produire, eh bien on devient narcoleptique. On sait qu'il y a eu des narcolepsies post-vaccinales.
Ouais, après le
H1N1, donc maintenant c'est 2009, ça fait longtemps. La plupart du temps, on ne retrouve aucune cause.
Avec le Covid, il n'y a pas ce type d'effet pour l'instant décrit.
Aucun.
Hein ouais. Bon, c'est important de le dire.
Aucun décrit.
Et une fois que l'enfant est narcoleptique, c'est pour toute la vie ou est-ce que ça s'améliore avec le temps? Comment? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils ont une vie normale, les narcoleptiques?
Les narcoleptiques, on essaie de leur aménager une vie normale. On donne des traitements qui vont les aider beaucoup, mais qui ne vont pas, pour l'instant, résoudre leur maladie. Ils vont garder leur maladie. Elle va évoluer au cours du temps. Ils vont rester souvent somnolents, mais ils vont savoir s'adapter. Et puis fonctionner de façon parfois brillante. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a une narcolepsie qu'on ne peut pas atteindre des niveaux de performance qui sont très élevés.
C'est quoi ces médicaments? C'est pour rester en éveil ou on ne peut pas juste boire du café, beaucoup de café pour que ça fasse le même effet, non?
On peut boire un peu de café, mais il y a des médicaments éveillants qui sont très bien contrôlés, on sait les utiliser. Ils permettent que l'enfant soit dans de bonnes conditions. Ils permettent aussi qu'on diminue ses cataplexies. Donc que finalement, il ait une vie presque normal.
Et du côté d'hygiène de vie, est-ce qu'il y a des choses particulières? Est-ce qu'on leur dit de faire des siestes à l'école, d'aménager un temps de repos? Est-ce qu'ils arrivent à travailler comme les autres?
Tout à fait. Il faut collaborer avec les écoles, avec les enseignants, que ces enfants puissent se reposer le midi, faire une sieste.
Avec
courte,
les patrons, quand c'est des adultes aussi, peut-être.
Avec
des
les adultes sieste, aussi. Et comme ça, ils ont un sommeil qui est récupérateur, un sommeil de sieste récupérateur.
Ouais. Est-ce que la recherche s'intéresse à cette maladie? Est-ce qu'il y a des pistes, je ne sais pas, prometteuses selon vous, pour améliorer, peut-être même guérir un jour ces patients?
On espère pouvoir les guérir, je ne dirais pas très bientôt, mais relativement bientôt. On a beaucoup avancé sur les causes, on sait qu'il y a beaucoup d'immunité qui participe à cette maladie, à la destruction de ces neurones. Et donc maintenant, le principe, ça va être de pouvoir les faire soit fonctionner, soit de suppléer à la carence qui intervient dans cette maladie.
Et puis, il y a aussi une histoire génétique. Parfois, dans la famille, est-ce qu'on peut retrouver d'autres narcoleptiques? Est-ce qu'il y a un terrain héréditaire particulier?
Alors, la maladie de narcolepsie est assez sporadique. On retrouve moins de facteurs familiaux que dans le somnambulisme, comme par exemple tout à l'heure, où c'est beaucoup plus fréquent. Mais pour la narcolepsie, il y a quelques cas familiaux, oui. Ils sont assez rares.
Merci beaucoup, docteur Lecendreux, d'avoir été cet après-midi avec nous,
plaisir.
D'avoir répondu à nos questions sur ces troubles du sommeil qui peuvent nous fasciner, mais qui peuvent, on l'a compris, engendrer beaucoup de conséquences dans le quotidien des patients. Merci beaucoup, docteur.
Merci beaucoup, merci à vous.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les mots du quotidien, dans laquelle, Jimmy, vous avez souhaité revenir sur ce match de samedi dernier où vous voulez parler foot aujourd'hui. Non, je plaisante. Vous vouliez évidemment revenir sur ces images qui nous ont quand même tous choqués. Ce joueur danois, Christian Eriksen, qui s'est écroulé sur le terrain brutalement victime d'un malaise cardiaque. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, malaise cardiaque, est-ce que c'est correct ? Ça veut dire quoi concrètement ?
Ça ne veut rien dire, malaise cardiaque. Dit comme ça, ça permet en gros de ne rien faire quand on voit quelqu'un faire un malaise cardiaque, puisque c'est le cœur et on se dit « Ouh là là, je ne veux pas le toucher ». J'ai entendu aussi parler d'attaque cardiaque, ça ne veut strictement rien dire. Encore une fois, ce n'est pas pour jeter l'anathème, mais c'est pour vous dire que cet homme était en arrêt cardio-respiratoire. Il a fait une mort subite, il était mort, il était inanimé, c'est un arrêt cardiaque.
Un cœur qui ne bat plus.
Exactement, c'est un cœur qui ne bat plus. Donc c'est très simple, un cœur qui ne bat plus, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui va être inconsciente. Pour savoir si la personne est consciente, il n'y a pas besoin d'une demi-heure. Souvent, on peut voir des gens et on peut le comprendre car ils ne sont pas formés, chercher absolument à comprendre. La personne inconsciente, c'est une personne qui a les yeux fermés, qui ne va pas les ouvrir lorsque vous allez lui demander. C'est un patient qui ne parle pas et qui ne bouge pas. Si vous avez ces trois critères très simples, ça ne parle pas, ça ne bouge pas, ça ne ouvre pas les yeux, elle est inconsciente. Et deuxième critère, elle ne respire pas. Inutile d'aller vouloir chercher le pouls.
Oui, parce qu'on va essayer, mais alors moi, parfois, c'est difficile de le trouver. Alors en plus, dans une situation d'urgence comme celle-là, c'est encore plus
exactement,
compliqué.
Exactement, vous allez perdre de nombreuses secondes. Le pouls, la recherche du pouls n'est plus obligatoire. Elle est réservée plutôt aux professionnels de santé, et même eux, souvent, ne le font pas. Il faut regarder simplement si la personne ne respire pas. Pour ne pas respirer, c'est très simple. Est-ce qu'il y a des mouvements thoraciques, c'est-à-dire est-ce que le thorax
se lève
et se rabaisse ? Et puis, est-ce que vous sentez au niveau de votre oreille un petit souffle
près de la bouche ?
À ne pas confondre avec une respiration très particulière qu'on appelle les gasps, qui correspond à une phase pré-mortem. Donc la personne, elle ne respire pas, elle ne bouge pas, elle est en arrêt cardiaque.
D'accord. Donc si on est victime un jour, enfin pas victime d'ailleurs, témoin plutôt de ce genre d'accident devant nous dans la rue ou lors d'un dîner de famille, la personne qui s'écroule, vous avez dit, on a vérifié d'abord tout ce que vous venez de décrire et puis on la met quoi sur le côté ? Comment on l'installe ?
On la laisse sur le dos, on ne la met pas en position latérale de sécurité.
Ça sert à rien dans ce cas-là.
La position latérale de sécurité, c'est quand la personne elle est inconsciente, mais qu'elle respire, pour éviter qu'elle inhale le vomi qui va régurgiter du fait de l'inconscience. Vous la laissez sur le dos, bien à plat, vous la découvrez, vous ouvrez la chemise, vous retirez le t-shirt, peu importe, et
là,
on commence.
On masse. Exactement. Le massage cardiaque, expliquez-nous.
Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de masser. Vous massez. Évidemment, vous appelez, si possible, de l'aide.
Donc vous faites appeler s'il y a quelqu'un
exactement,
autour.
Exactement. Voilà. Le 15, le 18, peu importe, vous appelez les deux en même temps pour avoir une réponse rapide. Vous envoyez quelqu'un chercher un défibrillateur et vous commencez à masser. Le massage cardiaque, c'est pas très compliqué. Vous prenez la paume de votre main, vous la mettez au milieu de la poitrine, un repère très simple, c'est entre les deux tétons. Pas de compliqué, en plein milieu.
Femme ou homme, c'est pareil.
C'est pareil. Vous mettez votre autre main qui va recouvrir la première qui appuie sur la poitrine, bras tendu, les épaules bien à l'aplomb de la victime, et vous commencez à masser.
Et fort. Hein.
Fort, très fort, 100 par minute. C'est très physique. C'est quasiment 2 compressions par seconde.
Et en enfance, assez fort, hein. C'est 6 cm, hein, je
exactement.
Crois.
Ouais. Il faut réussir à comprimer le cœur pour relancer l'activité électrique et la pompe cardiaque.
Ça veut dire qu'on risque de faire mal aux patients.
Mais
quand
non,
même.
À moins d'être Hulk, Captain America, vous n'allez pas casser les côtes. Et souvent, c'est une des craintes des patients, des gens, c'est de dire « Ah mais je vais faire mal ». Mais il n'y a rien de pire que de ne pas masser, car chaque minute sans massage cardiaque, eh bien, c'est 10% d'espérance de vie en moins. Donc chaque minute, chaque seconde compte. Et c'est comme ça qu'on sauve des vies. Et c'est comme ça que le joueur de foot Eriksen a été sauvé. Il a eu un massage au bout.
Très rapide.
Oui, très rapide. 1 minute 30. Donc déjà, en 1 minute 30, il avait perdu 15% d'espérance de vie. Oui. C'est dramatique. Mais heureusement, et ça a permis de le maintenir en vie. Et donc, il est ressuscité. Il est vivant grâce à ça.
Bon, encore faut-il savoir le faire. On n'est jamais mieux servi que quand on est formé. Jimmy, on rappelle l'importance de cette formation. Le PSC1, c'est le minimum.
Ça peut tous vous arriver, à la fois pour un de vos proches ou quelqu'un dans la rue. Le PSC1, c'est une formation que la Croix-Rouge peut délivrer, la protection civile ou même les pompiers. Vous faites ça. Et moi, je vous conseille aussi de le faire régulièrement. Une mise à jour. Parce qu'on fait bien ce qu'on fait souvent. Et donc c'est comme ça qu'on va sauver des vies et qu'on va améliorer la récupération, car c'est le massage qui sauve des vies, c'est pas de filmer avec votre téléphone, c'est vraiment de sauver des vies en massant.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour cet éclairage et ces conseils, on l'a compris, on peut tous un jour être amené à sauver une vie. La santé, le bien-être, l'amour, la sexo, c'est sur Europe 1, entre 15h et 16h. On va passer à la toute dernière séquence de l'émission que vous attendez tous, évidemment. C'est Catherine Blanc qui est avec nous pour parler de tous ces sujets-là. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on a une question de Marc, 24 ans. On va l'écouter tout de suite.
Très amoureux de ma copine, mais au lit, je m'ennuie un peu. J'ai déjà eu des partenaires avant et je ne ressentais pas ça. Je ne sais pas si c'est elle qui s'y prend mal ou si c'est moi le problème. Et je ne sais pas quoi faire pour le coup. Est-ce que je devrais lui en parler ? J'ai vraiment peur de la vexer. Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors Catherine, est-ce que lorsqu'on est amoureux, ça veut forcément dire que ça se passe bien au lit? Parce que je dirais comme ça sur le papier, quand on l'entend, on se dit c'est un peu étonnant. Et puis vous allez nous dire, est-ce que c'est fréquent?
On peut être très amoureux, on peut être très bien à bien des égards et être un peu en difficulté dans le champ de la sexualité, parce qu'évidemment la sexualité c'est encore un autre univers où il faut explorer des choses, où il faut oser des choses de soi, révéler des choses de soi. Et souvent, l'amour fait qu'on prend tellement soin de l'autre, tellement soin du lien, qu'on oublie d'être un peu créatif, sortir des sentiers battus. Et quand je dis sortir des sentiers battus, en étant tout simple, hein, alors pensez donc si on veut faire beaucoup plus aventureux. Donc là, ce qui est intéressant dans sa question, c'est qu'avant, il disait qu'il ne s'ennuyait pas, que c'était olé olé, que là, il trouve ça un peu plan-plan, un peu, et comme si elle ne savait pas s'y prendre, alors que justement, comme ils sont amoureux, c'est le loisir qui leur est donné de pouvoir se parler, d'échanger ensemble, tenter des choses, rire, échouer sans risque aucun, puisque justement, on est ensemble.
Il y a de l'amour,
bien
ouais.
sûr. Et c'est ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut se permettre de tenter des choses parce qu'on est en couple et que l'échec ne sera pas une remise en question du couple, alors qu'une histoire d'un soir, l'échec peut faire que ça s'arrête là, justement. Ouais.
Mais là, il emploie un mot assez fort, il parle d'ennui. Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est un qualificatif adapté à une relation sexuelle? Je ne fais pas du stand-up, c'est pas une performance d'artiste. L'ennui, est-ce que c'est vraiment le terme qu'on devrait utiliser quand on a l'impression que c'est un peu plan-plan? D'ailleurs, je ne sais même pas ce que ça veut dire être plan-plan.
Bah, en fait, cette phrase, je crois que vous avez raison. Qu'est-ce que ça veut dire s'ennuyer? S'ils sont en train de faire quelque chose, ils ne s'ennuient pas, ils sont dans l'action. Sauf qu'on a
si
tellement...
Dans l'action, ils s'ennuient, c'est embêtant quand même.
Oui, mais parce qu'on est abreuvé d'images et de discours sur la sexualité qui font qu'on a l'impression que c'est toutes les positions du Kama Sutra et la tête en bas et les pieds en l'air et c'est sur le côté.
Une compétition de sport de haut niveau. Quoi.
Absolument. Il faut un film porno, alors il faut savoir faire ça et faire ça et faire ça. Donc du coup, il a l'idée que ses précédentes relations, c'était olé olé, c'était quelque chose où il détestait un truc. Oh, j'ai vu ça. Ah, j'ai fait ça. Ah, elle a fait ça, etc. Et que là, finalement, c'est tendre. Et du coup, il appelle ça de l'ennui. Parce qu'on est dans un temps de notre existence, enfin, où on a le sentiment, et peut-être, je ne sais pas quel âge a Marc, 24 ans, si, et donc Marc est tout jeune, où on est dans le faire, le faire, le faire, et pas dans l'être. C'est-à-dire qu'on a peur des silences, on a peur de la lenteur, comme si la lenteur, c'était l'ennui, le silence, c'était l'incompétence à parler ou à se dire ou à faire. Alors que du coup, il faut être dans le zapping des positions, comme on est dans le zapping télé, comme on est dans le zapping de tout. Non, je pense que ça ne remet pas, on n'a pas à remettre là en question la relation, on a à approfondir et voir la richesse de cette relation. Parce que si je m'ennuie parce que je suis bien amoureux, etc., c'est à se demander si je jette le bébé avec l'eau du bain, je mets dehors et je recommence pour vivre des choses simplement pour vivre à 300 à l'heure sans avoir pris le temps de mesurer, de goûter à la relation.
C'est comme si un peu pour lui, l'amour, c'était l'ennui en fait. Parce qu'il dit dans mes relations précédentes, il ne précise pas qu'il était amoureux justement, il dit là je l'aime mais je m'ennuie. Avant, ce n'était pas comme ça, c'est étonnant quand même. L'amour et l'ennui ensemble comme ça.
Mais oui, parce que l'amour c'est doux. Et donc le doux, c'est l'ennui. Alors que la réalité, c'est qu'il y a la routine simplement parce qu'on a la chance. Encore une fois, on dit qu'il y a de la routine dans le couple amoureux.
C'est positif, la routine ?
Mais d'abord, c'est très positif parce que c'est très rassurant. Ça veut dire qu'on est là, on est au rendez-vous, on ne se fait pas peur. On n'est pas là à attendre l'autre qui ne viendra jamais. C'est ça qui est extraordinaire.
C'est stable, c'est sécurisant.
Exactement. Ouais. Et puis en plus, on traite les couples de routiniers dès lors qu'ils sont ensemble. Évidemment, si vous êtes avec quelqu'un, vous êtes tous les soirs avec ce quelqu'un, potentiellement toutes les nuits vous pouvez faire l'amour. Donc
tous les jours il faut ramasser les chaussettes, tous les jours il faut débarrasser
la vaisselle. Voilà, mais ce n'est même pas que ça si on parle que de la sexualité. Ouais. On peut le faire tous les jours. Si on ne le fait pas tous les jours, on se dit « oh là là, c'est horrible, maintenant qu'on est ensemble, on ne le fait pas tous les jours ». Et si on le fait tous les jours, « oh là là, c'est horrible, c'est routinier, on le fait tous les jours ». Donc de toute façon, on est toujours là pour se plaindre. Alors que quand évidemment, on a une relation avec quelqu'un avec qui on ne vit pas, bah, par définition, ça ne sera que quand on le rencontre. Et donc, c'est extraordinaire, puisque ce n'est pas de l'ordinaire.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On revient demain, même heure, sur Europe 1. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Place maintenant à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui Mélanie, des as de la passe, rien de sexuel, hein, croyez bien. On a réuni des personnages qui ont été à l'origine du foot Et oui, Lord Arthur Kinnaird, qui a fondé le foot en Angleterre.
Vous le dites si bien, j'y suis déjà.
George Best, un grand champion, vraiment. Et puis vous avez choisi celui qui est à l'honneur ce soir pour le match Allemagne-France.
Toutes les caméras seront braquées sur lui, c'est évidemment Karim Benzema, un as de la passe au sens footballistique. Attention, bien sûr, du terme, loin de nous l'idée de colporter des rumeurs.
Bon, bah très bien, avec vous, on va se préparer, se mettre dans l'ambiance pour ce soir, l'ambiance foot, bien sûr. On sera à l'écoute avec Jimmy et vous aussi, restez sur Europe 1. Hein.